Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour et bienvenue. Voici le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Et Francis Laloupo est avec nous. Bonjour Francis.
Et Liliane Niacha est avec nous également. Bonjour Liliane.
Bonjour Francis. Le duo est complet aujourd'hui.
Absolument.
Nous sommes là, vous et moi. Que se passe-t-il dans les cités et les écoles du Niger ? Depuis quelques mois, l'enseignement supérieur et maintenant secondaire sont paralysés par un mouvement de grève qui se durcit chaque jour un peu plus. Cette semaine, syndicats, étudiants et gouvernement ont repris les discussions, mais sans aboutir pour l'instant à une reprise des cours. Comment venir à bout de cette crise ? Quelles en sont les causes ? Nous en parlerons au cours de ce débat. Second sujet, la Centrafrique. Le lundi 1er mai, alors que l'on célèbre la fête du travail, une église catholique a été visée par une attaque armée qui a fait 16 morts. Une mosquée a été ciblée. S'achemine-t-on vers un conflit confessionnel dans ce pays plongé dans la violence depuis 2013 ? Analyse suivre. Enfin, nous parlerons du Gabon. Le Premier ministre a été reconduit 2 jours après avoir été contraint avec son gouvernement à la démission sur injonction de la Cour constitutionnelle pour défaut d'organisation des élections législatives. La décision de haute instance répond-elle purement au droit ? À qui profite-t-elle ? Nous en parlerons au cours du débat. Nos invités, d'abord présentés par Francis Laloupo.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Niamey, capitale du Niger, Assoumana Malam Issa, ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, porte-parole du gouvernement du Niger. Assoumana Malam Issa, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur
Dan. Merci d'être avec nous et nous serons rejoints en cours d'édition, nous l'espérons, cas par notre confrère
invité. Il est là,
invité.
Francis.
Ah, il est là. Il est avec nous au téléphone depuis Bangui, notre confrère invité, Emmanuel Lassirux Sandi. Bonjour, Emmanuel.
Merci,
Emmanuel, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus. Petite fiche de présentation, comme de coutume, de notre grand témoin invité, Assoumana Malam Issa, titulaire d'un DESS et plein d'études super spécialisées en ingénierie et gestion de la formation et de l'emploi. Vous avez occupé le poste de directeur du CNPG, c'est le Centre National de Perfectionnement à la Gestion, membre depuis 1991 du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme, le PNDS Taraya, le parti actuellement au pouvoir au Niger. Vous avez été élu conseiller municipal de la commune rurale en 2004, puis député à l'Assemblée nationale du Niger de 2011 à 2016, tout en étant député du Parlement panafricain basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, sénateur de la Jeune Chambre Internationale. Vous avez été lauréat en 2006, premier concours de l'art oratoire organisé par la branche nigérienne de la Jeune Chambre Internationale. Et c'est en avril 2016 que vous avez été nommé ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernité sociale, porte-parole du gouvernement du Niger. Assoumana Malam Issa, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, numéro 1 Paris. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup. À vous Liliane, d'accord.
Oui Francis, que faut-il faire pour amener la sérénité dans les écoles et universités du Niger ? Élèves, étudiants et enseignants pris au piège d'une grève qui bloque son fonctionnement. Et rien n'indique que tout rentrera bientôt dans l'ordre si on s'en tient tout au moins aux déclarations des acteurs de crise qui se sont retrouvés dans la semaine pour discuter de la solution apportée à cette situation sans pour autant trouver un accord. Monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement, donc impliqué, je suppose, dans ces négociations. Quelles sont les dernières nouvelles concernant ces discussions ouvertes en début de semaine avec les syndicats étudiants ?
Je vous remercie. Je salue les auditeurs et auditrices de BBC Afrique et de Afrique numéro 1. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, nuancer un tout petit peu, parce que tout à l'heure, vous disiez que les lycées, les collèges, les universités sont paralysés. Oui, c'est vrai qu'il y a une grève dont le mot d'ordre a été lancé par l'Union des scolaires nigériens. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous assistons à une tendance à la reprise un peu partout sur le droit nigérien au niveau de l'enseignement secondaire.
Excusez-moi, ministre, je ne voudrais pas vous contredire, mais juste mentionner que le leader de l'USN, juste après l'interview que vous avez accordée à la BBC, indiquant qu'il y avait une reprise relative des coûts, a remis en question vos affirmations, vos déclarations, et a maintenu que les écoles sont bien paralysées.
Je ne voudrais pas aller dans cette logique d'une guerre de communication. Je suis en train de vous rapporter ce qui s'est fait. Nous sommes dans une situation de la gérance, donc nous sommes informés de ce qui se passe un peu partout sur le territoire national. Nous avons une tendance à la reprise. Près de 80% des établissements secondaires de la région de Maradi, par exemple, sont en train de faire cours. Par contre, dans toutes les 8 universités, effectivement, les activités académiques sont suspendues. Ça, c'est une réalité. Alors, pour revenir à votre question, il y avait eu, à la suite de leur mot d'ordre de grève illimité, nous avions publié un communiqué dans lequel nous disions qu'il serait bien qu'ils reprennent le cours et faute de quoi on allait suspendre les activités des restaurants et des cités universitaires, ce qui a été fait depuis le lundi parce que l'ultimatum est passé. Après quoi, on avait eu une tentative de dialogue, on a repris le dialogue sur l'initiative personnelle du Premier ministre qui les a appelés. On a eu deux séances de travail, effectivement, j'ai dit aux négociations. Mais au cours de ces deux séances, ils ont posé un certain nombre de préalables, trois préalables notamment, à savoir libérer tous les élèves et étudiants arrêtés, pour la prise en charge de ceux qui étaient blessés à l'issue du mouvement du 18 avril et la
réintégration des cinq étudiants exclus.
Non, ça c'est dans la plateforme de 4. Je vous parle des préalables.
D'accord.
Les préalables même à la négociation, c'est ces deux points que je viens de citer, plus un point relatif à la reprogrammation des examens. Donc nous avons, nous, au niveau du gouvernement, dit que nous, notre préalable, c'est que vous reprenez le cours et aucune question ne sera tabou, on va en débattre clairement. Par rapport au premier point, il y avait, au moment où on négociait, des élèves qui venaient juste d'être arrêtés. C'était par rapport à cela qu'il était possible d'envisager quelconque libération, parce que déjà, près de 130 élèves étudiants étaient devant les juridictions et l'État, le gouvernement ne peut pas s'interférer dans l'activité de justice. Et par rapport au second point, l'ensemble de ceux qui étaient blessés ont été gratuitement soignés au niveau de tous les hôpitaux, les trois grands hôpitaux de la ville de Niamey. Donc cette question, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'elle était évacuée. Et puis par rapport à la dernière question, il s'agit là de décisions rectorales. Donc il fallait pour le gouvernement de discuter et échanger avec le rectorat pour voir la possibilité de cette reprogrammation.
Dans le résumé, monsieur le ministre, vous dites que vous avez rempli votre part de contrat en acceptant les préalables posés par les étudiants avant la reprise des discussions et que la balle est dans le camp des étudiants?
Non, je ne dirais pas qu'on a accepté l'intégralité de ce qu'ils avaient posé comme préalable, mais je dirais quand même qu'on a un pas où on a manifesté la volonté de faire ces échanges. Il suffisait qu'on continue les échanges sur ces préalables et les autres questions, que lever les mots d'ordre de grève et que nous, on rétablisse les œuvres universitaires, c'est-à-dire le transport et les facultés étaient déjà ouvertes, mais que le campus et puis les restaurants puissent être ouverts. Il fallait qu'ils reprennent les cours parce que c'est des œuvres universitaires qui sont opérationnelles lorsqu'il y a un cours, effectivement, mais quand ils sont en grève ou quand les universités sont fermées, il n'y a pas lieu de le faire. Donc nous avons fait preuve de bonne volonté pour qu'on aille dans le sens de régler ces différends-là. Mais malheureusement, ils n'étaient pas, selon eux, dans les conditions de lever le mot d'ordre de grève pour garder leur crédibilité aux yeux des militants. Et bon, bah, on a arrêté. Et à la date d'aujourd'hui, on n'avait pas repris les négociations au niveau du gouvernement et des étudiants.
Monsieur le ministre, vous avez rappelé les revendications des étudiants, mais il n'y a pas, je dirais, des causes plus profondes à cette crise, parce que, par exemple, les étudiants qui demandent les arrêts de bourse soient payés, par exemple, se demandent d'intervenir dans un contexte très particulier où la loi des finances a été fortement contestée, et aussi dans la rue d'ailleurs, il y a quelques semaines. Est-ce que, je dirais, cette loi des finances, par exemple, ne précarise pas davantage la situation des étudiants?
La question que l'on posait n'était que préalable. Il y avait une plateforme de 24 composée de 7 points. Entre autres points de cette plateforme indicative, c'était la réintégration des étudiants qui étaient exclus par l'université, oui, pas par le gouvernement. Et là, il s'agit donc d'une question qui ne regarde pas directement le gouvernement et qui était déjà devant le Conseil d'État par leur initiative. Et le Conseil d'État devrait trancher. Eux-mêmes, ils sont d'accord, ils sont dans la logique de dire quelle que soit la décision du Conseil d'État, c'est qui va prévaloir. Donc ça, c'est une des revendications. La question des bourses, ça se discute. Effectivement, le Niger, le gouvernement actuel est un gouvernement qui a fait preuve de bonne volonté. L'enveloppe des bourses, l'enveloppe du monde consacrée à l'enseignement supérieur est passée de 10 milliards en 2011 à 1 milliard aujourd'hui. En termes d'investissement, en termes d'amélioration des conditions de vie des étudiants, notamment au niveau de l'enveloppe des bourses. Donc, et ça, c'est un devoir du gouvernement de faire face à cette revendication. Donc, nous n'avons pas d'assentiment par rapport à ça. Ce que je voulais préciser, dans le communiqué du gouvernement, nous avons été clairs. Il faut restructurer, il faut revoir tout ce qui mine le bon fonctionnement de l'université. Et ce n'est pas ces petites questions de bourse et autres.
C'est important. Ce ne sont pas des petites questions, c'est quand même. Ils demandent l'appuiement de moins d'arriérés de bourse. Ce n'est pas des petites questions, quand même.
Oui, justement, ça fait partie des revendications. On allait discuter pour voir ce que le gouvernement peut faire immédiatement, ce qu'il pourra faire dans le moyen terme. Mais ces négociations n'ont pas lieu parce que les points, les questions préalables ne sont pas réglées.
D'accord.
Et quand on va arriver à ces questions, on va s'asseoir, on va promettre ce qu'on peut effectivement faire pour les étudiants. Ce que je voulais vous préciser, c'est qu'il y a des situations qui prévalent au niveau de l'enseignement supérieur par rapport auxquelles il faudrait que chaque partie sassé et assume ses responsabilités. C'est-à-dire le gouvernement, le paiement des bourses, la création des conditions en termes d'investissement pour les infrastructures et autres, ça, ça incombe à l'État. L'État fasse preuve de responsabilité et assume cela.
Oui.
Les centres de sécurité des étudiants, de sécurité des enseignants et d'un nombre de pratiques qui se font dans le campus, qui terrorisent les étudiants, qui terrorisent les citoyens, il faudrait que les étudiants acceptent de s'asseoir et d'assumer leurs responsabilités pour que les pratiques cessent.
D'accord.
Il faudrait du côté des enseignants chercheurs que l'enseignement soit dispensé dans les bonnes conditions, les corrections soient faites objectivement. Et là, également, donc, les enseignants doivent s'assumer et puis les parents d'élèves doivent encadrer leurs étudiants. Donc nous, nous sommes dans une logique de dire il faut assainir l'université, il faut assainir le système éducatif et pour cela, chacun doit jouer sa partition. Nous sommes prêts à jouer la nôtre.
Une question sur la gestion de la crise hein, par les autorités nigériennes, parce que vous avez rappelé tout à l'heure cet ultimatum qui avait été émis hein, par votre voix d'ailleurs aux étudiants, sommet de reprendre les cours sous peine de voir cité et restaurant. C'était fermé, c'était à partir du 30 avril. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'est fait, hein, ces cités et restaurants étaient donc fermés. Alors, dans un contexte aussi tendu, monsieur le ministre, est-ce que c'est de bonne politique de la part du gouvernement de recourir à ce genre d'ultimatum? Est-ce que ce n'est pas rajouter la tension à la tension?
Écoute, lorsque quand on donne l'occasion aux étudiants, ils peuvent descendre, casser, comme ils l'ont fait le 18 avril dernier, pour casser le rectorat, pour casser les biens des simples citoyens, les maintenir dans les campus sans qu'ils fassent cours. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure décision. Je ne dis pas qu'il faudrait museler le système éducatif, qu'il faudrait le maintenir dans une certaine précarité, mais il faudrait que les choses qui sont prévues pour les cours soient maintenues pour les cours. Les œuvres universitaires sont prévues pour que les activités académiques se déroulent. Quand il n'y a pas d'activité académique, les activités syndicales se poursuivront.
Oui.
Je veux dire, les perturbations pourraient perturber et l'État a la responsabilité d'assurer la tutude, d'assurer la sécurité de l'université, la sécurité des citoyens et des personnes vivant dans les environs de l'université. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement prend ce genre de décision. Mais quand il se voit contraint de le faire, je pense que le plus important, c'est d'assumer.
Monsieur le ministre, Francis parlait des causes de la tension actuelle, mais l'origine de la grève qui est en cours dans les universités nigériennes, la suspension des étudiants, 5 étudiants, suite aux actes de violence contre des enseignants, mais les gens parlent d'altercation. Mais aujourd'hui, finalement, quelle est la réponse adéquate à apporter? Parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de radicalisation de la situation et le gouvernement est comme entre marteau et l'enclume. Vous savez, d'une part, les enseignants qui étaient en grève parce qu'ils dénonçaient les violences dont ils disent avoir été victimes. Et d'autre part, vous avez les étudiants qui réclament et revendiquent la réintégration de leurs 5 camarades exclus à la suite de ces violences sur les enseignants. Aujourd'hui, quelle est la réponse du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez comme réponse à cette situation?
Vous êtes en train de clairement expliquer que la grève des étudiants n'est pas forcément dirigée contre le seul gouvernement, mais contre la décision électorale d'exclure ces étudiants. C'est le conseil scientifique de l'Université de Niamey qui a décidé d'exclure ces étudiants parce qu'effectivement, il y a eu ces événements que vous rappelez, cette agression à l'endroit d'un enseignant.
Les étudiants parlent d'altercation.
Oui, on peut le qualifier comme on veut, mais le conseil de l'université a jugé que c'est suffisant pour qu'il exclue les étudiants. Le gouvernement ne peut pas interférer pour casser une décision du conseil scientifique de l'université qui est indépendant. Donc nous sommes en train de juger. La grève, effectivement, ils la font pour le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a responsabilité du système éducatif entier. Et nous sommes en train de nous assumer. Le moment venu, se lève le mode de grève, on va s'asseoir et on va apporter beaucoup de solutions.
Manifestement, ce n'est pas le cas pour le moment, monsieur le ministre. Comment régler à la fois la demande des étudiants et l'exigence des enseignants?
Écoutez, ces deux situations nous ont aidés à être dans la logique au moins d'apporter des solutions durables aux problèmes du système éducatif, notamment le système universitaire. Il y a tellement de choses malsaines qui se pratiquent sur le campus, sur les facultés.
Quelques exemples.
Les facultés. Je vous ai dit, on a des preuves des agressions, des mutilations qui se font au sein des campus. Et du fait de la CASO, c'est la commission
des affaires sociales de l'ordre structuré et estudiantine qui fait office de police au sein de l'université.
Voilà, c'est une sorte de police à l'intérieur, mais je la connais. Mais il y a tellement de pratiques qui ne sont pas du tout acceptables au sein de campus que devrait d'abord gré. Et nous sommes arrivés malheureusement à une situation où c'est une sorte de co-gestion des centres des œuvres universitaires qu'il y a. Mais... ça, l'État n'acceptera pas la gestion des universitaires.
Mais cette structure, CASO dont vous parlez, était connue de l'administration universitaire. Elle ne s'est pas mise en place de façon, je veux dire, secrète. Elle était connue. Le fonctionnement dont vous parlez et que vous dénoncez était connu.
Je suis membre actif de l'USN. Je n'étais pas membre de la CASO, mais lorsque, il y a 30 ans, j'étudiais à l'Université de Niamey, j'étais membre de ces structures syndicales. Mais on n'avait pas d'agression, on n'avait pas d'abus à l'intégrité physique des étudiants ou des personnes, d'autres personnes. Donc, c'est des pratiques qui se sont développées avec le temps. Malheureusement qu'on allait se développer.
Dont l'administration universitaire a laissé faire.
Par l'administration, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit, nous sommes dans une situation où on prend conscience du fait qu'il faut des mesures adéquates pour faire face non seulement à ces pratiques-là, mais aussi pour mettre les anciens chercheurs et l'université devant ses responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure, même la répartition du travail n'est pas directement faite par les centres des œuvres universitaires. Elle est presque faite par les étudiants, ce qui est inadmissible. Donc nous voudrions que chacun à son niveau, y compris nous en tant que gouvernement, que chacun à son niveau s'assume et nous sommes prêts à nous assumer. Que les étudiants s'assument, que l'administration des œuvres universitaires s'assume, que les enseignants s'assument parce que légalement il y a des pratiques académiques qui ne devraient pas avoir cours dans une université et nous sommes prêts à discuter, à aider avec les enseignants chercheurs et à ramener chacun dans sa position victime pour qu'il assume ses responsabilités, pour qu'il fasse face à sa mission et non laisser se développer des pratiques qui ne peuvent pas permettre un enseignement de qualité. Ça, nous sommes déterminés. Je vous ai dit, c'est le voisin qui fait le larron. Face à tout ce que nous avons constaté comme dérive, le gouvernement est dans une position de dire qu'il va prendre les décisions nécessaires pour respecter l'autorité de l'État.
Oui, évidemment, la tâche risque d'être immense parce que la question est de savoir comment on en est arrivé à une telle dégradation de la situation au sein des universités. Mais on n'a peut-être pas le temps de vous faire réagir tout de suite. Moi, j'ai quelques questions à vous poser également. Mais, pardon, on arrive tôt, hein, je veux dire, au moment
oui,
de la pause.
Oui, on va peut-être laisser
30 secondes.
Oui, 30 secondes à notre confrère pour réagir à cette situation que vient de décrire le ministre Issa Emmanuel.
Oui. Effectivement, le cas de l'Église de l'Église de l'Église à l'heure actuelle m'amène à suggérer qu'il y ait une stratégie pour procéder au dialogue et aussi d'annoncer la réforme du système de l'enseignement supérieur du Niger. À propos justement, je voudrais également signaler que le problème de l'arrêt de bourse aussi c'est une déclaration pour le gouvernement va le faire, mais lorsqu'il y a le problème de la réintégration du sujet qui était exclu. Si le chien ou même a saisi le Conseil d'État, c'est une manière de corriger la décision électorale, dès le temps où il doit saisir la justice, il doit apprendre également à faire confiance à la justice de leur pays.
Merci. On va pause, vous allez poursuivre dans quelques instants, Emmanuel.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
En duplex à Dakar et grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Niamey, Assoumana Amalam, ministre de la Jeunesse culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale du Niger. Porte-parole du gouvernement du Niger, notre confrère invité depuis Bangui au téléphone, Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur en chef du site Média Plus. Emmanuel Cyrus Sandi, vous allez pouvoir reprendre votre propos, votre analyse sur la situation au Niger avant que l'on pose la question au ministre. Emmanuel.
Oui, allez-y. Oui, Emmanuel, vous disiez, étant donné que l'affaire était en justice, la justice aurait laissé la justice aller jusqu'au bout.
Voilà. Elle ne peut pas saisir la justice et continuer encore à manifester. Je pense qu'ils ont aussi le droit de saisir la justice. Par ce fait même qu'ils ont saisi la justice, ils ont atteint la question de la justice. Et je voudrais préciser au niveau du Conseil d'État, au niveau des juridictions administratives, le fait que les décisions ne peuvent pas être justice. Maintenant, il y a absolument pas de délai pour la réponse. Ça peut attendre 6 mois, ça peut être un an. Ce qui est un peu gênant, qui pourrait être.
Excusez-moi, Emmanuel, je ne sais pas si Francis vous suit. Moi, je ne vous suis pas. Vous parlez de l'affaire judiciaire parce qu'à ma connaissance, l'USN n'a pas saisi la justice et le gouvernement non plus.
Non, ce sont les gens qui auraient saisi le Conseil d'État, c'est là que vous êtes.
D'accord.
Et nous disons, je peux mettre le Conseil d'État. Voilà, c'est une manière de demander l'admission.
De l'exclusion.
D'accord.
Pourquoi les étudiants sont arrivés à adresser les enseignants? Un enseignant adressé par les étudiants, ça me paraît quand même bizarre.
Oui, évidemment. Il faut peut-être que la justice nigérienne, évidemment, fasse une œuvre.
Pas de consensus.
Oui.
Merci Emmanuel.
Merci. Francis. Monsieur le ministre, madame de Dexion, une première question rapide. Est-ce que vous pouvez encore sauver la militaire ou pas?
D'abord, avant de répondre à votre question, je confirme les propos d'Emmanuel, de monsieur Emmanuel, qui dit que les étudiants ont suivi le Conseil d'État.
Oui.
Et le Conseil d'État, je ne pourrais vous dire quand est-ce qu'il va réagir, mais ce n'est pas ce qu'il prétend, c'est pas ce qu'il insinue, de dire que le Conseil d'État va prendre des mois, 6 mois avant. Non, c'est vrai que dans nos pays, les pays africains en général, il y a une certaine lenteur au niveau du système judiciaire, mais le Conseil d'État est un peu différent. Ce n'est pas aussi submergé, aussi occupé par les dossiers que les juridictions.
Sa décision pourrait intervenir.
Voilà, nous prions pour la décision. Et je pense que même les étudiants sont dans le soutien d'esprit de dire qu'on attend la décision du Conseil d'État incessamment. Je crois que si ce n'est pas fait aujourd'hui, les assises vont se tenir et puis ils auront l'argent. Et ils se contenteront de cette décision, qu'ils respecteront parce que c'est eux qui ont fait la démarche.
Merci.
Maintenant, par rapport à l'année, nous n'avons pas. Il n'y a pas d'année blanche dans tout le système éducatif nigérien qui soit possible. D'abord, comme je voulais, au niveau du secondaire, on est en train de finir les examens du brevet sportif,
oui,
qui finiront demain.
Mm.
Et les brevets démarrera le mardi 8.
Mm.
Et dans la plupart des facultés, c'est le système LMD qui est en train de s'installer, malheureusement, malgré un certain chevauchement des années, et qui fait qu'il y a toujours cette possibilité de valider un semestre ou de valider l'année toute entière.
Mmh.
C'est dans certaines facultés, notamment les facultés de médecine, qu'on peut craindre qu'il y ait d'année blanche. Et là, déjà, la faculté de médecine au niveau de l'université de Niamey a fait ses examens la semaine.
D'accord.
Donc nous espérons qu'il n'y aura pas d'année blanche, non seulement pour ces raisons, mais il n'y aura pas d'année blanche parce que je pense que nous serons tous appelés à la raison, les étudiants et nous, pour qu'on se retrouve autour d'able, qu'on discute, qu'on échange pour l'intérêt du Niger, pour l'intérêt de la jeunesse, pour l'intérêt de l'enseignement et du système éducatif.
Ce qui n'est pas pour l'instant. Alors, monsieur le ministre, j'aurais élargi un peu le débat.
Ce qui pourrait être le cas, pardon mon pessimisme, mon frère, faut pas mon pessimisme.
Votre pessimisme.
De la normalité des choses de mon pays, je pense que c'est de m'aider de les biens.
Francis, vous êtes appelé à la rescousse.
Moi, je vous pose simplement des questions, monsieur le ministre. Alors,
vous appréciez à votre façon des appréciations qui sont souvent tendancieuses.
Tendancieuses, vous dites-vous.
Bon,
écoutez, pourquoi
pas. Faisons qu'on vous pose des questions, monsieur le ministre, en relatant la version, en faisant écho de ce qu'ils les étudiants et aussi de la réponse du gouvernement.
Vous dites Francis vous-même que les pauvres ont à peine conquis. Vraiment, c'est fait comprendre votre propos. Alors, pour élargir un peu le débat, monsieur le ministre, et là, je me suis au porte-parole du gouvernement, hein, parce que, voilà, les étudiants qui ont été incarcérés dans un contexte quand même où, vous le savez bien, des ONG dénoncent d'arrestation, incarcération et détention abusive de membres de la société civile dans votre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cette crise universitaire s'alimente aussi des tensions sociales qui, lui, traversent votre pays?
C'est une réalité, mais pour craindre ce que diront les ONG, on ne va pas piétiner le droit de notre pays. Le Niger est un pays démocratique. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons au respect de notre constitution et des lois que nous sommes librement données.
Mmh.
Donc, depuis qu'un gouvernement, aucune ONG ne critique notre gouvernement, on ne va pas laisser les choses se passer comme les ONG le souhaitent. Et malheureusement, vous savez très bien comment fonctionnent les ONG qui se greffent là-bas en Europe ou dans certains pays sans jamais visiter l'État et puis faire des rapports.
Mais là, on parle des ONG locales.
Les organisations de la société civile dans votre pays qui sont très actives, hein, qui sont les premiers à monter en ligne pour
dénoncer
ces détentions abusives.
Oui, mais je dis, elles sont ces personnes, ces responsables des ONG, elles-mêmes sont arrêtées au respect des normes. Et elles sont devant les juridictions, on attendra les décisions pour ceux qui ne sont pas jugés, mais pour ceux qui le sont en train de purger les peines.
Mais
ma question est de savoir si ce n'est pas un contexte de tension dans votre pays qui, évidemment, pourrait peut-être compliquer d'ailleurs pour parler que vous engagez avec les étudiants.
Non, ça n'a aucune relation. Il n'y a pas de relation entre les manifestations qui ont été faites sous le couvert des mesures prises dans la loi des finances et ce qui est en train de se faire au niveau des étudiants. Il n'y a pas de lien possible.
Mmh.
Et donc nous sommes en train de... Et la preuve, c'est que ces derniers jours, vous n'êtes pas le cœur de la situation des scolaires. Les autres questions sont pratiquement changées et nous sommes en train de poursuivre les démarches, les procédures pour gérer la situation de façon globale.
Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre très brièvement à cette question? question. S'il vous plaît, vous avez évoqué les pratiques de certains enseignants chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces pratiques? Et aussi, il y a également certaines dérives que vous dites ont été constatées ces dernières années dans les organisations à l'université, au niveau des syndicats. Qu'est-ce qui, selon vous, conduit à ce que vous qualifiez de dérive aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, je peux ne pas pouvoir répondre à la précision à cette question parce que je ne suis pas encore en possession d'un document qui doit m'être remis, qui comporterait l'ensemble des pratiques qui sont dénoncées par les étudiants et même par les parents d'élèves du côté d'enseignants-chercheurs. Par contre, selon certains dires, un enseignant-chercheur peut rester 6 mois sans corriger les copies, ce qui est inadmissible dans un système éducatif. 6 mois, ça veut dire que c'est un semestre. Quel que soit le nombre d'étudiants par ailleurs que vous avez dans un amphithéâtre, il n'est pas admissible que pendant 6 mois, vous n'avez pas corrigé, vous n'avez pas remis des copies. Et dans tous les systèmes africains, vous savez, il y a des pratiques qui jurent à l'équité.
Anti-académique.
Voilà, anti-académique. Et nous sommes prêts à débusquer ces pratiques-là et à discuter, à échanger, à prendre les mesures nécessaires, toutes les mesures nécessaires pour que ça cesse.
D'accord. Et sur la dérive, vous dites que il y a des actions au sein de l'USN qui ne sont plus admissibles. Comment en est-on arrivé là?
Mais écoutez, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis un certain nombre d'années, les nombres des étudiants ne faisaient que s'accroître. Aujourd'hui, nous avons 8 universités au niveau du Niger. On avait une seule université en 2011. On en a 8. Le mouvement syndical a pris de l'ampleur. Donc, il y a un certain nombre de pratiques qui se sont développées, qui ne sont pas facilement contrôlables par l'administration universitaire et qui ont malheureusement glissé pour devenir des pratiques.
Dans l'administration, vous dites clairement responsable de ce que vous appelez des dérives aujourd'hui. Pour n'avoir pas réussi à contrôler le flux d'étudiants.
Dans ces questions de dérives, dans ces questions de pratiques, dans la situation dans laquelle le système éducatif se trouve, tout le monde est coupable, y compris nous en tant que responsables, en tant que gouvernants, en tant qu'administration. Les étudiants sont responsables, vous l'avez dit au début de cet entretien. Étudiants sont responsables, les enseignants le sont, nous le sommes, les parents d'élèves aussi ont leur responsabilité. Merci. Plus important, et c'est là qui m'amène à évoquer un aspect que Emmanuel avait frôlé à l'heure, la question d'un forum pour le thème éducatif de façon générale. Ça fait partie des revendications des étudiants. Nous, on ne trouvera pas d'inconvénient à nous asseoir avec trois partenaires de l'école, à discuter, à prendre des mesures, des nouvelles bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour atteindre tout le système éducatif, y compris du scolaire.
Les états généraux de l'éducation, peut-être. Prochain sujet.
Le débat Africa BBC.
Avec un grand témoin invité depuis Niamey au téléphone, Assoumana Malamissa. Pardon, ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, porte-parole du gouvernement du Niger et notre confrère invité depuis Bangui, Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur en chef du quotidien Média Plus, édité à Bangui, où nous nous rendons justement à présent avec une violence signalée qui sont produites à Bangui cette semaine, une situation très tendue dans la capitale centrafricaine où le mai dernier, alors que des échanges de tirs étaient signalés armés et les forces de sécurité intérieure, des hommes armés ont attaqué une église catholique, l'église Fatima. Bilan, au moins 24 personnes ont été tuées, parmi lesquelles l'abbé Albert Tougoumbaba et quelques 170 blessés. Cette attaque aura aussi inattendue, qu'inédite dans la capitale, a suscité un sentiment de stupeur au sein de la population et cercle du pouvoir. Et en réaction à cette attaque, une foule en colère a incendié une mosquée et lynché 2 personnes, les ressortissants sénégalais qualifiés de musulmans. Et ce mercredi, le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a invité les citoyens au calme et à ne pas tomber, je le cite, dans le piège d'un conflit confessionnel. On va écouter avec vous, Liliane, à Dakar, un élément sonore sur cette actualité.
Oh, oui, Francis, c'est juste un retour sur l'attaque dont vous venez de parler avec James Fornell, l'un des correspondants de BBC Africa à Bangui.
Il était environ 10 heures ce 1er mai quand tir à balles réelles ont retenti à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Fatima, tuant des chrétiens dont l'abbé Albert Tungouma Lebaba. L'incident a créé la panique à Bangui. Des barricades sont érigées et des scènes de violence enregistrées. Jocelyn Yacinthe Adoum, membre de la fraternité Saint-Joseph, parle de 10 morts, se place à la paroisse de Fatima.
J'ai vécu ça, mais c'était terrible. C'était vraiment terrible parce que la messe avait bien commencé. On est arrivé au niveau de la promesse. Les gens ont réussi à passer la promesse. Ils ont caché leur foulard. Après la prière universelle, quand on voulait démarrer les quêtes, C'est là où les armes ont commencé à crépiter.
Des témoins ont rapporté à la BBC que tout a commencé lorsqu'un jeune présumé membre d'un groupe dirigé par un chef influent d'une armée du PK5 est identifié devant la paroisse de Fatima. Il est alors interpellé. Après son interpellation, la dite paroisse a été la cible d'un tir armé attribué à ses camarades contents. Cette attaque intervient 3 semaines après l'opération Sokoula, qui se fit nettoyer en sanglots, lancée par la MINUSCA, la mission de l'ONU Centrafrique et les forces de sécurité intérieure, visant à arrêter des bandes armées au PK5. Bangui, James Vornel pour BBC Afrique.
Merci beaucoup. Justement, Emmanuel Cyrus Sandy, c'est à vous tournons vers vous pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que je peux dire que ce qui s'est produit cette semaine était dans le prolongement des affrontements qui avaient opposé le 10 avril dernier des milices du quartier du PK5 au casque bleu de la MINUSCA, déployé d'ailleurs avec les forces de sécurité africaines. Est-ce que c'est le même contexte qui s'est prolongé cette semaine?
Oui et non. Oui, parce que justement, à chaque fois que les forces internationales de la MINUSCA, les forces de sécurité intérieure vont pour faire des enquêtes, vont pour poser des stations au kilomètre 5, la plupart des extrémistes musulmans, c'est pour ça que nous, les armées, ici, sont des extrémistes, vraiment, pensent qu'ils voient toujours la main d'une communauté chrétienne derrière. Alors que cela est toujours là. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à Sarah, c'est que vrai qu'il y a des rumeurs, mais vraiment des rumeurs sur ce qui est de ce que M. Force, de son
Force,
allait attaquer encore la parapluie dans le bâtiment, comme ils l'avaient fait déjà en 2014 et en 2015, à l'approche de l'arrivée du pape ici. Donc pour nous-mêmes, des médias, on s'attendait plus ou moins à cela. Le gouvernement est au courant, l'administration est au courant. Mais à notre bord de suspense, ils n'ont pas pris, en tout cas, enfin, les éléments de faire cela, n'ont pas pris les dispositions pour empêcher cela. Car il est incompréhensible que lorsque ces éléments vont pour faire des perquisitions, ils n'arrivent pas à mettre en place une sorte de cellule pour empêcher que les gens recherchés ne puissent s'évader. La facilité avec laquelle les éléments de force ont quitté le kilomètre 5 pour aller attaquer la période de Fatima, il y a une différence en matière de gestion de la sécurité dans cette enclave musulmane du kilomètre 5.
Mais c'est voilà Est-ce, alors, cette église Fatima était donc très clairement pour cible. Est-ce qu'on peut dire que cette église a été attaquée par hasard, ou alors, parce que certains disent, hein, même le président Touadéra dit qu'il faut exclure totalement le caractère criminel de cette attaque.
Non, je ne pense pas que ça chemine vers un conflit professionnel. Merci.
Mais est-ce qu'il y a un signal qui est donné par le groupe armé qui a attaqué cette église? Est-ce que cette attaque, comment dire, a envoyé un signal particulier pour de caractère confessionnel à cette, justement,
Conflit. Je sais que c'est un signal, pourquoi? Parce que dans leur langage, quand surtout M. Force et ses derniers temps, ils multiplient des messages à travers les réseaux sociaux, pour insulter le chef de l'État, et tous les autres. Ils disent clairement que les musulmans sont très mal vus et lui, que son rôle au kilomètre 5, c'est de protéger les musulmans. Or, si le kilomètre 5, c'est pas vraiment une zone réservée aux musulmans, or, le kilomètre 5, c'est une zone mixte. C'est vrai que les musulmans sont les principaux commerçants, les principaux entrepreneurs commerciaux de l'arrondissement. C'est pas une zone exclusivement réservée aux musulmans. Donc, à travers leur message, on sent, c'est eux-mêmes qui le disent. Mais je ne crois pas officiellement un groupe chrétien qui se place là.
Bien sûr.
Donc, surtout que, là, on constate en fait que la plupart des groupes armés, qui sont les groupes armés exceptionnels, sont opposés à plus de 90% ou de plus de 100% de musulmans.
D'accord.
D'accord.
Emmanuel, vous dites que malgré l'attaque de l'église de la mosquée, il n'y a pas de raison qu'on assiste à un conflit confessionnel. Comment justement faire en sorte que ce message passe auprès des musulmans, des chrétiens, pour dire que malgré ces incidents, on ne doit pas en arriver là?
Oui, je vais faire la question de Liliane. Voilà, s'il vous plaît, je voulais donc rappeler ce que disait le président Ouattara, qui disait qu'il ne faut pas céder justement au pire du conflit confessionnel. Mais est-ce que les seules paroles des autorités centrafricaines suffiront à empêcher la montée de cette tension confessionnelle?
Autrement dit, comment faire en sorte qu'on n'y arrive pas?
Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là que ce qui est en cours, ce n'est pas un conflit confessionnel, ce ne sont pas des musulmans qui sont contre des chrétiens, ce ne sont ni des chrétiens contre des musulmans, mais il y a un groupuscule de musulmans qui veulent à tout prix faire comprendre aux gens que c'est confessionnel.
C'est ça.
Oui, Emmanuel, là,
c'est ça qu'on a dit.
Mais comment faire en sorte qu'on n'en arrive pas là? Que malgré ce discours dont vous venez de parler, malgré ces attaques contre l'Église et la mosquée, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'en arrive pas, c'est-à-dire un conflit confessionnel?
Le problème, c'est que le gouvernement a un agenda, n'est-ce pas, qui est différent de l'agenda de la communauté internationale, notamment l'initiative africaine pour la paix et la sécurité pilotée par la commission de
l'Union africaine.
Mais on n'arrive pas à comprendre depuis au moins un an et demi pratiquement, l'Union africaine est en train de faire des démarches pour qu'on arrive à un nouveau dialogue national inclusif pour parler sur tous les problèmes, toutes les préoccupations, que ce soit des communautés ou religieux.
On n'y parvient pas.
Le gouvernement, selon ce que nous savons tous ici, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement est régulier. On voit des gens vraiment pour les contacter. Et eux-mêmes, quelque part, ils sont sensibles à la demande du gouvernement qui sera obligé, en violation de la Constitution, de ce groupe armé là, dans le gouvernement, au cabinet de la présidence de la République, au cabinet de la primature, etc.
Mais qui fait problème alors? Pourquoi ça ne fonctionne pas jusque-là? Pourquoi le message de paix ne fonctionne pas? Pourquoi le paix ne parle pas?
Le message passe à la chaîne, le message passe au peuple, on a des associations musulmanes qui travaillent pour la paix, on a fait là-bas, on dirait des chrétiens un peu partout. Et bien sûr, la problème de confession religieuse, le cardinal, le père islamique, le chef de l'église protestante, il fait ce travail-là. Le message de paix passe tous les jours. Mais moi, je soupçonne la communauté internationale un agenda caché, parce qu'on ne croit pas qu'on a fait confiance pour que cette commission soit là. Le processus de dialogue politique qui existe, mais malheureusement, il y a un grand retard pour la suite actuellement.
Permettez-moi, Emmanuel, de rebondir ce que vous venez de dire. Oui. Francis avait permis. Alors, vous dites que c'est la communauté internationale qui jouerait double jeu dans cette crise. Ces derniers temps, on a parlé du rapprochement entre Bangui et Moscou. Il y a eu un accord de livraison d'armes aux forces armées et même la protection rapprochée du président est assurée sans petit par les Russes. Que savez-vous justement de ces relations et pensez-vous que peut-être ce rapprochement pourrait être à l'origine de la tension actuelle? Je veux dire, est-ce que le conflit serait l'objet d'une lutte pour des enjeux géopolitiques et géostratégiques?
Les enjeux, ça ne manque pas. Mais moi, en compensation de la présence militaire russe ici en Centrafrique, comme vous le savez, c'était à la demande même des Nations Unies. La Russie avait demandé en tenue du Conseil de sécurité des Nations Unies de livraison de armes aux forces armées centrafricaines. On a également obtenu le principe d'envoyer des institutions militaires pour former les soldats africains au maniement de ces armes-là. Donc, on veut, tout de suite, du point de vue de la légalité, la présence russe qui se justifie. Bon, maintenant, quant à savoir, au-delà de. Est-ce qu'il y a des contrats? Des conventions, on ne sait pas. Ce que nous savons, que cela préoccupe l'Assemblée nationale, qui a dit ouvertement qu'elle souhaitait que s'il y a des contrats signés entre le gouvernement centrafricain et le gouvernement russe, il faudrait que cela soit présenté à l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 60 de la Constitution qui fait obligation de l'État et au gouvernement de passer d'abord de recueillir l'avis favorable de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, pour signer des contrats de convention à caractère militaire, économique, financier, etc.
Merci. On va peut-être laisser le ministre Francis.
C'est ce que j'allais proposer.
Oui. Monsieur le ministre Issa, sur cette dernière flambée de violence en Centrafrique et le double jeu supposé de la communauté internationale dont parle Emmanuel.
Merci beaucoup, mais permettez que je me contente de prier pour que la paix en Centrafrique et dans les autres parties de l'Afrique soit intégrale, soit effective. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin de se concentrer sur la recherche des voies et moyens d'exploiter les ressources et de se développer. Et que tout ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est les conflits confessionnels, effectivement. Parce que les conflits interethniques, les conflits confessionnels sont moins dangereux et avec des conséquences désastreuses qu'il faut prier pour que ça n'arrive pas en Centrafrique. Mais je ne saurais me prononcer sur les appréciations relatives au rapport de la Centrafrique avec la communauté internationale.
Bon, donc, on s'attendait un peu à cette réponse, cela dit. Hein.
Oui, on l'a déjà entendu avec d'autres porte-paroles de gouvernement qui est de s'exprimer sur les pays étrangers, la politique intérieure des pays étrangers. Francis, on va passer tout de suite au Gabon, où le Premier ministre et son gouvernement étaient contraints mardi à la démission après la dissolution la veille de la nationale par la Cour constitutionnelle. La décision de la Cour est intervenue après qu'elle a été saisie par le chef du gouvernement, Emma Issoze Ngondé, pour solliciter une troisième prorogation du mandat des députés. Jeudi, le président Ali Bongo a décidé de reconduire le même au poste de Premier ministre. Monsieur le ministre, comment appréciez-vous cette décision de la Cour constitutionnelle du Gabon, une Cour souvent accusée par l'opposition de partialité, sinon carrément de collusion avec le pouvoir?
Au risque de me faire calier, de ne pas être très cultivé, j'allais dire que je ne maîtrise pas très bien le fonctionnement des juridictions au Gabon, mais je me dis que chaque pays se dote d'un certain nombre de structures et de systèmes de contrôle tels que les cours constitutionnels. Tel que ça fonctionne au Gabon, c'est certainement autrement ou de la même manière que ça fonctionne au Niger. Si ce sont les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont en train d'être appliquées et qui soient conformes à ce qu'eux se sont comme règles, comme loi, comme constitution, je pense qu'on ne peut que dire et souhaiter le meilleur pour le Gabon et que chacun se tient au respect. Maintenant, les positions de l'opposition, je pense que c'est chose de là qu'on ne peut pas s'attirer à les apprécier comme ça.
Oui, mais c'est quand même une opération politique à laquelle celle cette Cour conditionnelle, parce qu'elle revient à cette décision dans un contexte où les élections législatives n'ont pas puni, elles ont porté déjà par deux fois. Et alors, donc, décision de l'Assemblée, suivie de la démission du gouvernement, puis de la mise en place d'un nouveau gouvernement, enfin, qui est en cours d'ailleurs, puisque le Premier ministre a été reconduit. Il se pourrait d'ailleurs que le gouvernement soit pratiquement identique au précédent. Et selon vous, à qui profite cette situation finalement, puisque les élections n'ont toujours pas eu lieu et on ne sait toujours pas quand elles auront lieu?
Je ne sais pas.
Oui.
Sincèrement, je ne pourrais vous le dire. Je ne peux pas vraiment vous dire exactement, je sais ce qui se passe et pour vous dire à qui ça peut profiter.
Une appréciation politique de la situation.
En tant qu'Africain. Non, c'est pas politique.
Non,
c'est le plus sincèrement du monde.
Oui, non, mais je vous demandais une appréciation politique.
L'appréciation politique, c'est de souhaiter que la situation telle qu'elle est en train d'être vécue au Gabon soit meilleure pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais.
C'est votre prière.
Mais vous pensez tout au moins que le président a peut-être réussi par cette décision à la preuve, disons, de son attachement à l'égalité, et peut-être aussi la Cour constitutionnelle, en donnant cette décision, donne un gage sur son indépendance qui est remise en cause. Peut-être il y a eu quand même un gain de part et d'autre, non?
Ben, c'est possible.
Bon.
En tout cas, on a cru que le ministre va faire sa prière pour les Gabonais.
Je pense que, vous savez, je suis quand même porte-parole de mon gouvernement.
Bien sûr.
Ne saurais m'ingérer dans des situations aussi relatives et avec tant de sources d'incompréhension comme celle-là. Et je pense que c'est très facile à comprendre de la part des journalistes.
On le comprend parfaitement, monsieur le ministre. Mais on va poser la question à notre confrère, peut-être à Bangui, qui lui est moins soumis à un devoir de réserve. Emmanuel, c'est autant dit. À qui profite cette situation, Emmanuel?
Je voudrais saluer le courage de la Cour constitutionnelle du Gabon. Il faut avouer que c'est une question de courage. Lorsque la haute juridiction constate, par exemple, que le mandat, n'est-ce pas, d'une institution est déjà terminé comme l'Assemblée nationale, que cette institution continue à juger comme ça sans base légale, il est tout à fait de son droit, n'est-ce pas, au regard même de la constitution du pays, au regard de textes en vigueur, de demander à ce que cette institution-là termine et qu'on reprenne les procédures de direction des membres.
Hey. Donc vous voulez dire que peut-être cette décision est la preuve de ce qu'on peut appeler le désormais affranchissement de la Cour constitutionnelle, que l'opposition dit à la solde du pouvoir?
Bon, on a entendu des accusations contre la Cour constitutionnelle de Gabon depuis la période de Omar Bongo personnellement, que ce n'était que une chaîne d'enregistrement de l'exécutif, etc. Donc, si on peut considérer ça comme un affranchissement, tant mieux.
Je vous pose la question.
Nos institutions fonctionnent en toute indépendance, en toute indépendance, et qu'elles fassent preuve en tout cas de maturité dans leur prise de décision, et la démocratie ne peut qu'en se sortir renforcée.
Et bon, juste quand même, il n'y a pas de gouvernement pour l'instant. Il n'y a pas non plus de date pour les prochaines élections législatives qui vont se tenir fin avril. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une dissolution du Parlement pour rien, puisque jusqu'à présent, près d'une semaine après, on ne sait toujours pas quand ce scrutin?
Non, on ne peut pas dire que c'est une dissolution pour rien, puisque le Premier ministre vient d'être nommé. c'est l'ancien électeur de conduite, ça c'est de un, et le chef du gouvernement là, à charge pour lui maintenant de faire l'explication, n'est-ce pas, pour fermer le gouvernement, peut-être une semaine ou 10 jours de retard. Bon, c'est pas grave, je ne pense pas que le retard va disparaître parce que le gouvernement n'a pas existé pour 10 jours. Mmh. Hein, logiquement que la question de ce gouvernement là se passe vite. Bon, pour les élections maintenant, je pense que la base se fixe par un bel compétent en matière électorale. Et comme vous le savez, pour les élections, il y a toujours un temps. Est-ce qu'il va falloir qu'on révise également le fichier électoral? Ça, c'est un problème. Vous savez, la crise née au Gabon après l'élection après les dernières élections présidentielles. Vous savez cela, peut-être que l'opposition, la société civile, bonne partie de Gabonais, va en profiter pour exiger à ce qu'il y ait une révision du fichier électoral pour qu'il y ait véritablement transparence, afin que les élections ne puissent pas être contestées. Mais si vous ne pensez que l'organe compétent de gestion des élections.
C'est-à-dire l'instance gabonaise des élections qui a remplacé la Commission électorale nationale autonome et permanente.
Oui, la balle est dans son temps pour que vraiment, d'ici peu, elle puisse être fixée sur l'état d'organisation des prochaines élections pour mettre en place l'Assemblée nationale.
Merci. On venait d'écouter le message de nos auditeurs, un message requis à présent par Sandra Bassabam.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Niger, Charles Bazema se demande pourquoi les autorités nigériennes ne cherchent pas à sortir de la crise. Selon lui, les étudiants sont les futurs successeurs de ces dirigeants. Et il conclut que ces autorités doivent être des exemples pour ces jeunes Nigériens. Sur la Centrafrique, Pancras Lovu plaide pour l'intervention de la communauté internationale au risque de voir la Centrafrique évoluer vers une religieuse et sans précédent. Et de préciser que si les choses arrivent à ce point, aucun pays limitrophe ne sera épargné. Cher Abdourad abonde dans le même sens et demande pour sa part l'implication de toutes les parties avant que la crise ne touche les pays limitrophes. Enfin, sur le Gabon, Mefiti pense que la décision de la Cour constitutionnelle montre comment les institutions en Afrique peuvent se surpasser du pouvoir de la politique pour dire le droit. Selon lui, la situation profite à l'opposition et notre fidèle auditeur de dire que l'opposition a ainsi l'opportunité d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Merci de rester fidèle sur notre page Facebook à facebook.com/BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Sandra Bassabam. On va écouter une conclusion générale de notre côté. Monsieur le ministre Assoumana, Madame Issa, une conclusion générale de la situation justement en cours dans votre pays, dans le secteur de l'éducation, le secteur universitaire.
Oui, j'espère que c'est une situation de crise ponctuelle. Que dans les heures, les jours qui suivent, nous allons nous retrouver autour de la table des négociations avec les étudiants et que nous puissions mettre encore une fois à l'avant, comme nous avons l'habitude de le faire dans ce pays, l'intérêt de la jeunesse, l'intérêt de ressources de façon générale et que nous puissions discuter, trouver des compromis pour régler jamais le problème du système éducatif. Comme je l'ai dit, j'ai prié, je souhaite que la situation en Centrafrique puisse être également solutionnée. Que l'escalade ne provoque pas un conflit confessionnel aux conséquences désastreuses pour ce pays qui a tant souffert. Je souhaite donc la paix pour la Centrafrique et que toutes les situations de crise, d'incompréhension qui se trouvent dans des pays comme le Gabon puissent être résolvées de façon permanente pour l'intérêt de l'Afrique. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure dans mes interventions, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de crise scolaire et universitaire, elle n'a pas besoin de conflits confessionnels, elle n'a pas non plus besoin de conflits politiques.
Ou de crise institutionnelle. Merci beaucoup.
De crise politique et institutionnelle.
Merci beaucoup, M. le ministre Assoumana, Madame la ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale du Niger, porte-parole du gouvernement du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Merci à votre frère. Merci également à Emmanuel Cyrus Sandi, directeur de la publication et rédacteur chef du quotidien Média Plus. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris, Simon Ross, chargé de production Sandra Bassabam. Vous pouvez écouter cette émission bien sûr en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, si tout va bien, pour une nouvelle édition
de BBC Afrique, Africa numéro 1. Rich Dina Aiga participé à la production
Richard
de
Thierry,
l'émission cette semaine.
Qui tout... était là aussi voilà. Cette semaine, évidemment. Oui, elle a apporté son soutien précieux à Sandra Sabam.
On travaille. Merci à tous. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir.